Visconti Talks. Vous écoutez Visconti Talks, le podcast de dirigeants à dirigeants. Une émission portée et présentée par les partners de Visconti, spécialistes de l'accompagnement de dirigeants par des dirigeants. Qu'est-ce qu'un bon dirigeant? Comment être un leader inspirant et inspiré? Comment transformer sans fracturer? À chaque épisode, un dirigeant nous inspire, partage son expérience et sa vision du métier de dirigeant. Bonne écoute!
Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Éric Devaux. Après plus de 35 ans dans l'industrie des réseaux et de la cybersécurité, la création d'une start-up et deux directions générales pour de grandes sociétés cotées aux US, j'ai rejoint Visconti Partner et c'est avec beaucoup de passion que je coach des dirigeantes et des dirigeants de la tech, mais pas uniquement. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir au micro de Visconti Talks Maxime Cartan, cofondateur et CEO de la société Citalid, dédiée à la quantification financière du risque cyber. Maxime, tu as rejoint le centre opérationnel de l'ANSSI, donc Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, en 2015, en tant que spécialiste du renseignement sur les cybermenaces. À la fois ingénieur informatique de l'école centrale et diplômé de l'ESSEC, tu es spécialisé dans la sécurité informatique offensive. Avant de rejoindre l'ANSSI, tu étais associé d'HyperMind, une start-up dédiée à l'analyse géopolitique prédictive. Depuis fin 2017, tu es cofondateur et CEO de Citalid, qui développe une solution SaaS de pilotage des investissements de sécurité et d'assurance cyber par la quantification des risques. Maxime, au-delà de cette bulle rapide, qui es-tu ?
Merci, bonjour Eric, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, qui suis-je ? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut avant tout dire que je suis un homme marié avec une femme formidable depuis 8 ans maintenant, bientôt. Je suis un heureux papa d'une petite fille d'un an et demi qui est formidable. Et puis, je suis aussi un homme qui essaie de retourner le plus souvent possible dans sa région d'origine, qui est Marseille, hein, en tout cas la région de Marseille, le sud-est. J'ai encore de la famille là-bas, donc j'essaie d'y aller souvent. Et puis surtout, la mer me manque énormément. Je suis un grand amoureux de la mer, passionné de plongée, passionné d'apnée. Amateur de mathématiques aussi, parce que je suis issu d'une famille où on n'avait que deux choix, hein, si je puis dire, les mathématiques et la musique. J'ai choisi les mathématiques. Malheureusement, j'ai un peu moins de dons pour la musique. Et voilà ce qu'on peut dire sur moi.
Ok. Et alors, pourquoi tu te lèves tous les jours et quels ont été tes moteurs ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre ?
Pourquoi je me lève tous les jours ? Déjà parce que justement, j'ai une petite fille d'un an et demi. Donc, ça fait réveil.
C'est une bonne raison.
Voilà, ça fait réveil naturel. Pourquoi je me lève tous les jours ? Je pense qu'il y a trois choses. Il y a déjà... La vision et la mission de Citalid, de notre entreprise, c'est extrêmement important parce qu'on n'a pas l'impression de travailler. Quand on croit à ce qu'on fait, qu'on est persuadé que ça va être utile pour des gens. Donc nous, en l'occurrence, c'est faire en sorte que les gens puissent vivre en confiance avec leur risque cyber. Quand on voit le nombre de burn-out, le nombre de dépressions, le nombre d'ingrédients anxiogènes qu'il peut y avoir dans le domaine de la cybersécurité. C'est vrai que ça donne envie de se lever, d'avoir une mission pareille. La deuxième chose, c'est évidemment l'équipe. C'est quand même avant tout une aventure humaine. On a des collaborateurs qui sont absolument formidables. On pourra y revenir, mais je reste persuadé que la meilleure façon de réussir, c'est de recruter des gens qui sont meilleurs que soi et qu'on va réussir à impliquer dans un projet. Avoir la chance de travailler avec des gens qu'on apprécie, qu'on respecte et qu'on admire, c'est quelque chose qui donne envie de se lever. Et puis, il y a aussi quelque chose d'être peut-être un peu plus personnel, c'est que moi, je fonctionne, j'ai un certain attrait ou amour pour le risque. C'est-à-dire, j'ai d'autant plus envie de me lever que les probabilités sont contre nous, qu'il y a un vrai risque dans ce qu'on fait et qu'on a envie de faire bouger les lignes. Donc ça, c'est vraiment motivant. Et je pense d'ailleurs que c'est ça, pour répondre à ta deuxième question qui m'a donné envie d'entreprendre. C'est cette idée qu'on va aller réaliser une mission à l'encontre des probabilités et le fait que aussi j'ai toujours été quand même attiré par les nouveaux projets, par cette phase un peu d'idéation créative où on lance des idées, on sait pas du tout où ça va aller, on se met aucune limite, parfois ça n'a vraiment aucun sens, mais parfois on aboutit à quelque chose qu'on a envie de pousser plus loin.
Alors créer dans la cyber, mais pourquoi la quantification financière du risque cyber ?
Alors pour faire un petit historique, on était initialement Alexandre et moi, puisqu'on est deux cofondateurs, à l'ANSSI, donc tu l'as dit, hein, qui est l'Agence nationale de cyberdéfense. Et on s'est rendu compte que parmi les dirigeants des grandes entreprises françaises qui faisaient partie des organismes accompagnés par l'ANSSI, il y avait à cette époque-là encore un déni ou une mauvaise réalisation de l'exposition au risque. L'anecdote qu'on raconte régulièrement, c'est que avec Alexandre, on a vraiment décidé de faire quelque chose. On savait pas encore exactement quoi, mais on a décidé d'agir quand on est arrivé dans une grande entreprise stratégique française que je ne citerai pas, mais qui était compromise jusqu'à la moelle, si je puis dire, par des attaquants. Et que le dirigeant refusait d'entendre l'ANSSI qui lui présentait un plan de remédiation informatique sur à plusieurs millions sur plusieurs années. Et pour lui faire réaliser la réalité tangible de ce risque, on a été obligé de lui mettre sous les yeux les emails, ces emails imprimés auxquels l'attaquant avait eu accès. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un vrai risque business pour son entreprise. Et donc, on s'est dit que c'était pas possible, qu'il fallait impliquer les dirigeants, parler leur langage. Et la quantification financière, c'est ça, en fait. Hein, c'est étudier à la fois la probabilité de survenance d'un risque et ses impacts financiers pour exprimer aux dirigeants dans leur langage que c'est leur sujet et qu'il y a des actions à prendre qui relèvent de leur décision, leur pouvoir de décision.
Ok. Alors, à la tête des sociétés, on voit souvent des solopreneurs. Et comme tu l'as dit, c'est une aventure que vous vivez à deux avec Alexandre Dulangard que tu as rencontré à l'ANSSI. Comment vous fonctionnez ensemble et vis-à-vis de l'équipe?
Alors ça aussi, c'est une question qui, je trouve, est clé. Pourquoi? Parce que si je refais le film, je me serais absolument pas senti de le faire seul. J'ai d'ailleurs énormément de respect et d'admiration pour les solopreneurs, comme tu les appelles, comme des gens comme Stéphanie, que tu as pu interviewer aussi, ou d'autres. Moi, je me serais pas senti de le faire. Et il se trouve qu'en plus, j'ai trouvé la personne qui, je pense, me complète parfaitement. Souvent, il y a des gens qui disent que c'est comme un second mariage, hein, de se lancer dans une entreprise. Et c'est clairement ça. Et je dirais que pour Alexandre et moi, il y a plusieurs facteurs clés de succès. Déjà, il y a au-delà des complémentarités de compétences, parce que moi, je suis à la base ingénieur et puis j'ai une formation école de commerce aussi en parallèle, alors que lui est plutôt profil juridique avec une formation géopolitique en parallèle. Donc vraiment, on a des façons de penser complètement différentes. On a des personnalités différentes et on a des biais cognitifs qui sont, je pense, extrêmement complémentaires. À titre d'exemple, moi j'ai un biais d'optimisme, donc j'ai tendance à toujours voir la vie un peu plus rose qu'elle n'est. Alexandre est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus posé, beaucoup plus lucide sur certains aspects. Donc ça, c'est une belle complémentarité. La clé, c'est la confiance aussi, hein. Je pense qu'on a extrêmement confiance l'un dans l'autre. C'est une personne à qui je confierais une grande partie de ma vie les yeux fermés. Et il y a peu de gens dont on peut dire ça, je pense. Des valeurs communes. Et puis, c'est tellement dur, l'entrepreneuriat, qu'il faut qu'on partage aussi une foi dans le projet, dans la mission. Je prends le terme foi à la lettre. Hein, c'est-à-dire, il y a parfois aucune garantie de succès. Il y a des épreuves qui sont parfois très, très dures à passer. Et savoir qu'on sera toujours deux et qu'on aura toujours la même vision là-dessus, c'est quand même extrêmement rassurant.
Alors, il y a un sujet qui te passionne et qui te tient à cœur, c'est l'intelligence collective. Alors, je voulais savoir comment elle s'exprime chez Citadine.
Alors, l'intelligence collective, déjà, pourquoi ça me tient à cœur? C'est quand même une partie de mon parcours. On a dit que j'avais un profil ingénieur à la base. Pour être honnête, je ne me suis jamais vraiment senti ingénieur au sens très physique et matériel du terme. Moi, j'ai toujours aimé les mathématiques et l'informatique, qui sont quand même des domaines peut-être un peu moins tangibles ou un peu plus dématérialisés. Et donc, c'est vrai que mes deux passions quand j'étais en école d'ingénieur, c'était ce qu'on appelle le hacking. Globalement, c'est pousser un système dans ses retranchements, tester les limites pour voir comment il réagit et pouvoir potentiellement les exploiter. Mais ça, on a vu où ça m'a mené. Et une deuxième chose qui m'a toujours passionné, c'est les sciences de la décision. Au sens, comment on met à la fois une combinaison de choses purement rationnelles, comme les probabilités, la modélisation du monde, et l'irrationnel, avec la personnalité, les sentiments, et comment on arrive à combiner ça pour prendre des bonnes décisions. Et donc, pour y revenir à l'intelligence collective, en sortant d'école, j'ai croisé le chemin de deux personnes, Émile Servan-Schreiber et Maurice Balic, que j'ai rejoint ensuite dans leur aventure de ce qu'on appelle des marchés prédictifs, donc c'est un domaine de l'intelligence collective, et qui m'ont ouvert les yeux sur le fait que une foule peut avoir des réflexes très idiots. On a vu historiquement ce que ça a pu donner, mais peut aussi faire naître de très belles choses et notamment avoir une vraie intelligence. Et il faut faire naître les conditions de cette intelligence. Alors comment on essaie de le faire chez Citalide? Parmi les conditions de l'intelligence collective, il y a déjà la diversité des profils. Et ça, c'est clé pour nous. Depuis le début avec Alexandre, on a fait extrêmement attention à recruter des profils qui soient parfaitement complémentaires. Et par exemple, par rapport à d'autres boîtes cyber, on n'a absolument pas que des profils issus de la cybersécurité ou technique. On a aussi des géopoliticiens, des gens de l'intelligence économique, des gens du domaine de l'assurance, des financiers, des mathématiciens. Enfin voilà, on essaie vraiment d'avoir une pluralité des points de vue. La deuxième condition, c'est que les gens aient accès à toute l'information et soient libres de donner leur avis en toute responsabilité. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de donner le plus possible notre confiance aux gens qu'on recrute très rapidement pour les responsabiliser et faire en sorte aussi que l'information soit la plus transparente possible et la plus répandue possible. Donc voilà, on partage le plus possible l'information, on implique tout le monde dans les décisions, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément une démocratie parfaite, hein, c'est pas l'objectif non plus, mais en revanche, tous les points de vue sont pris en compte et agrégés, je pense, d'une façon qui est la plus efficace possible.
Alors, si Citalide, c'est pas une démocratie, c'est une famille, c'est une équipe, c'est un collectif, comment tu qualifierais ça?
Alors, souvent, dans le milieu des startups, notamment un peu à l'américaine, Silicon Valley, on entend que c'est une famille. Je suis pas forcément à l'aise avec ce sujet. D'ailleurs, je pense que c'est un discours qui a un peu fait son temps et qui est de moins en moins à la mode. Je pense que c'est important de séparer, en fait, hein, tout simplement. Ça reste un travail, même si on n'a pas l'impression de travailler, que le matin on se lève et on est au milieu de gens qu'on apprécie, qu'on respecte et avec lesquels on aime passer du bon temps. Ça reste différent de ce qu'on peut appeler une famille et c'est important de savoir couper. Donc je dirais oui que c'est une équipe, un collectif, bien sûr. On a parlé d'intelligence collective, donc le terme collectif me plaît bien. J'allais peut-être même plus loin, hein. J'ai dit que c'était Marseillais, que j'étais attiré par la mer, donc je dirais presque que c'est un équipage. D'ailleurs, parfois on rame, mais l'important c'est qu'on rame tous dans le même sens, au même rythme, qu'on soit le plus synchronisé possible, et qu'on soit tous impliqués à 200%, et persuadés que même si il y a des passages difficiles, que c'est pas rose tous les jours, et d'ailleurs si c'était rose tous les jours, ce serait pas de l'entrepreneuriat et la récompense serait moins belle au bout. Mais en revanche, qu'on reste tous persuadés qu'on va atteindre la destination à un moment ou à un autre, plus ou moins vite, mais qu'on va y arriver tous ensemble, et que la condition de succès, c'est vraiment que tout le monde ait cet objectif en tête en permanence.
Ok. Est-ce que tu peux retracer quelques étapes clés d'apprentissage de ton métier de dirigeant?
Alors, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça l'est jamais, je pense. Ça a commencé, alors en tant que dirigeant, entre guillemets, hein, ou entrepreneur, on va dire plutôt, je suis toujours plus à l'aise avec ce terme. Ça a commencé à l'ANSSI, comme je le disais tout à l'heure. En fait, avec Alexandre, je pense qu'on avait tous les deux cette fibre entrepreneuriale. Alexandre, pendant ses études, avait déjà monté une web agency avec des amis à lui. Et moi, j'avais, en sortie d'études, comme je l'ai dit, rejoint cette startup d'intelligence collective. Donc avant l'ANSSI, on avait tous les deux déjà cette fibre pour les aventures un peu risquées et créer des projets. Et donc on a commencé à en parler assez naturellement, finalement, en allant prendre des bières ensemble. Quand on est à l'ANSSI, on gère des crises qui sont parfois d'ampleur. On a besoin de décompresser. Et donc souvent, aller prendre une bière en équipe, c'est salvateur. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. On a décidé, avec le déclic dont j'ai parlé tout à l'heure, de vraiment lancer le projet courant 2017. Donc on a démissionné. On a passé pas mal de temps dans une chambre de l'appartement d'Alexandre qu'on avait reconverti en bureau, où vraiment on travaillait, on se mettait aucune limite, on lançait des idées. Une anecdote qu'on aime bien raconter, c'est qu'on faisait des mind maps. Je pense que tu dois voir ce que c'est. Donc des sortes de graphes avec des nœuds qui sont des idées et des liens entre elles. Et un jour, on a décidé d'imprimer la mind map qu'on avait faite pour le projet qu'on souhaitait créer. On l'a imprimé en très grand sur plein de feuilles A4. On l'a épinglé au mur d'Alexandre. Et on s'est rendu compte, en prenant un peu de recul, que ça avait la forme d'une Kalachnikov, d'un K-47. Bon, on a décidé de finalement pas appeler l'entreprise comme ça. On l'a appelé Citalide. C'était un peu un troll initialement, hein. C'est parce que dans l'administration française, il y a un amour pour les acronymes. Et donc, on a voulu faire un petit clin d'œil à ça. Et Citalide, à la base, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est un acronyme. ces centres d'investigation transverse et d'analyse en lutte informatique défensive. Je m'en souviens encore, alors qu'on le déroule évidemment jamais. C'est plus du tout un acronyme maintenant, hein, c'est une marque qu'on utilise telle quelle. Et a posteriori, d'ailleurs, on s'est rendu compte que CITA en latin, c'est la dynamique, la mise en mouvement. Donc la mise en mouvement de la lutte informatique défensive, ça nous plaisait bien. Donc on a créé cette entreprise, on s'est fait accompagner assez vite. On s'est rendu compte que tout prenait plus de temps que ce qu'on pensait. Je pense que c'est vraiment un vrai apprentissage quand on est primo-entrepreneur. On a l'impression que tout va aller très vite et qu'au bout d'un an, on aura les premiers clients, les premières levées de fonds, des perspectives de croissance absolument phénoménales. Ça peut être vrai, mais ça prend parfois un peu plus de temps et surtout dans des domaines où il faut de la confiance comme la cybersécurité. Ça, c'est un premier enseignement. Bon, il s'est passé plein de choses. On a levé des fonds. Il y a eu le Covid, qui a quand même été pas forcément évident à gérer. Il y a eu de l'hypercroissance avec beaucoup de succès en 2021, 2022, une partie de 2023. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi pas évident parce que l'équipe grandit fortement. Fatalement, on est amené à, en tant que dirigeant, à s'éloigner un petit peu de l'équipe initiale et du noyau dur en fait qu'on avait créé. Donc garder contact avec les équipes, c'est un vrai enjeu. Et puis, il y a parfois aussi des moments difficiles, apprendre à sortir des gens. C'est loin d'être évident, surtout quand c'est pas quelque chose qu'on aime faire naturellement. Mais voilà, c'est parfois nécessaire. Savoir aussi mettre le bon, trouver le bon équilibre entre la proximité avec les équipes et le fait que parfois c'est à nous d'assumer les décisions difficiles. Donc ça passe par la transparence, par les after work, par vraiment expliquer aux gens quels sont les tenants et les aboutissants des décisions qu'on prend. On y revient toujours, hein, intelligence collective et la transparence.
Donc justement, avec toute cette expérience collective et ces années passées, qu'est-ce qui a changé en toi depuis la création de CITALEAD ?
Énormément de choses. Je pense que je ne suis pas du tout... Alors je suis la même personne évidemment, mais j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup progressé. Je pense que je peux dire, même si c'est jamais évident de dire ça, que je suis passé de quelqu'un qui était passionné de cybersécurité et qui avait envie de monter un projet, à quelqu'un qui aujourd'hui pratique le métier d'entrepreneur. Voilà. Ce qui est quand même assez important. Humainement, j'ai beaucoup appris aussi. Je pense que j'ai plus confiance en moi. Je suis plus assertif. Il y a deux raisons à ça, hein. La première, c'est que c'est vraiment crucial de se faire accompagner. Bon, c'est pas pour faire de la pub, mais on est quand même sur les Visconti Talk. Et honnêtement, le coaching Visconti aide énormément. Et personne m'a payé pour le dire. mais j'y crois vraiment beaucoup. Et puis aussi, la deuxième raison pour laquelle je pense que j'ai un peu pris confiance en moi, c'est le fait que quand on arrive à motiver des gens qui sont meilleurs que soi, qui ont des compétences formidables, qui sont des gens de grande valeur, avec parfois énormément d'expérience sur le marché, et qu'on arrive à les motiver pour travailler sur un projet qu'on a initié, en fait, c'est grisant et c'est la meilleure preuve de confiance qu'on puisse donner à quelqu'un. Et d'ailleurs, ça nous arrive régulièrement avec Alexandre, quand on prend la parole devant l'équipe, d'être ému par ça, de se retrouver face à ces gens. Alors on n'est pas non plus une énorme entreprise, hein, mais on est quand même une grosse quarantaine, une petite cinquantaine, et quand on se retrouve devant ce parterre de gens qui sont tous extrêmement talentueux, bah on peut pas s'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur. C'est assez normal, je pense. Je suis beaucoup plus résilient et je pense que je me connais mieux, c'est-à-dire on parlait du biais d'optimisme tout à l'heure. Bah maintenant, je sais que j'ai ce biais d'optimisme. Je sais qu'il faut que j'essaie en permanence de lutter contre, même si c'est pas évident. Et puis voilà, et l'air de rien, je pense que je me verrais pas faire autre chose que de l'entrepreneuriat, même s'il y a, c'est pas évident tous les jours. Il y a quand même un péage à la fois physique et moral. C'est vraiment un métier absolument formidable, même si, pour terminer, je suis amené à faire beaucoup plus souvent du PowerPoint et de l'Excel que du Python. C'était le petit regret que j'ai et le manque que j'ai. Mais je le referai mille fois si c'était à refaire.
Ok, bah justement, avec une baguette magique, le rêve à 10 ans pour toi et pour CITALEAD, comment il se matérialise, hein?
10 ans, c'est loin. C'est loin pour un entrepreneur. Demain, hein. Alors pour CITALEAD déjà, c'est assez facile puisqu'on a une vision qui est assez claire. Donc globalement, ce qu'on aimerait avoir réussi à faire dans 10 ans, c'est faire en sorte que toute décision cyber ou en tout cas toute décision qui a un lien plus ou moins ténu avec l'exposition au risque cyber des entreprises se fasse en passant par Citalide. On a bien conscience qu'il y a une partie des décisions qui restera de l'humain, de l'émotion. Mais en revanche, si on arrive à injecter dans la prise de décision du rationnel, des probabilités comme on souhaite le faire et de la connaissance de la menace et de l'univers cyber, on arrivera à faire en sorte de réduire le marché de la peur et le caractère anxiogène qui est aujourd'hui caractéristique du marché cyber. Et on arrivera à faire en sorte de débloquer l'assurance cyber, qui est quand même un marché qui est aujourd'hui grippé et qui est pourtant clé dans la gestion du risque, à faire en sorte que les RSSI et les risk managers dorment sur leurs deux oreilles et atteignent une sorte de confiance en eux qui fait qu'ils savent qu'ils ont pris les bonnes décisions avec les données à disposition à un instant T, et qu'on ait réussi à faire en sorte que l'écosystème cyber participe de ce mouvement et soit aligné derrière cet objectif. Une sorte de langage commun de la prise de décision cyber. Et puis après, pour moi, déjà, je me vois à la mer. et quand je dis la mer, je parle de la mer et le soleil, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Bretons en cybersécurité. J'adore la Bretagne, évidemment, mais c'est vrai que je me vois bien dans le sud. Que ce soit chez Citalide ou pas, parce qu'on verra si je suis toujours la bonne personne et ce qu'il advient de Citalide, mais de toute façon, la vision restera présente. Et quelque chose qui sera un invariant, c'est l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler avec les gens avec lesquels je travaille, c'est un bonheur au quotidien. Et donc, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible.
Ok. Alors maintenant, pour clôturer, il y a les trois questions. C'est un gimmick chez nous, hein, incontournable des Visconti Talk. La première, c'est quel conseil donnerais-tu pour être un excellent dirigeant ou une excellente dirigeante?
Alors, bon, je vais faire court parce qu'il y a certaines choses que j'ai déjà évoquées, je pense, mais la persévérance, la résilience. C'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est à force de tomber qu'on arrive à faire des belles choses et à se relever, je pense, et c'est important de savoir se relever. Recruter des personnes meilleures que vous, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est clé. Je pense qu'il faut tomber amoureux de la vente et des clients, et pas du produit. Ça, c'est un biais qu'on a très et trop souvent, surtout en tant qu'ingénieur. Et puis peut-être qu'il y a un biais aussi français, je sais pas, mais souvent on a l'impression que c'est un peu différent dans les pays anglo-saxons. Mais voilà, il faut mettre en avant la valeur qu'on va amener aux clients, et c'est ça qu'il faut leur présenter avant tout, et pas les fonctionnalités du produit. C'est difficile, hein. Je dis pas qu'on a réussi et qu'on a trouvé la clé pour débloquer ça, mais en tout cas, c'est le cap à garder en tête. Quelque chose que d'autres entrepreneurs m'ont souvent dit, et notamment Yosra, que tu connais aussi, c'est et ce que toi tu dis souvent, c'est faire la bonne chose et pas plein de choses bien. C'est vraiment savoir prioriser, se concentrer et être focus, concentré sur un seul et même objectif.
Et quel serait le plus grand enseignement en tant que dirigeant?
Rester soi-même. Rester soi-même parce qu'il y a quand même, on vit dans un monde où l'entrepreneuriat c'est quand même un métier qui je trouve a une place un petit peu à part, qui est parfois mis sur un piédestal, qui est parfois de temps en temps décrié pour le modèle économique qui est parfois critiquable, hein, c'est vrai, de l'hypercroissance, etc., même si c'est un petit peu en train d'évoluer et de changer. Je pense qu'il faut pas essayer de coller à l'image que les gens projettent sur ce que doit être un entrepreneur. J'ai l'impression que pour réussir, il faut vraiment faire de ses forces et de ses faiblesses un moteur. Ne pas essayer d'endosser un costume qui va être trop grand pour soi et qui, de toute façon, à un moment ou un autre, va craquer. Et les gens vont le voir. Et la clé de tout, c'est vraiment la confiance qu'on arrive à inspirer dans les gens. Et je pense que Alexandre, comme moi, il y a une phrase qui nous a beaucoup marqué, que nous a un jour dit Julien, qui est notre directeur commercial, qui est « Moi, j'accorde ma conscience très vite et dans une quantité énorme, mais en revanche, elle est perdue aussi vite qu'elle est accordée et de façon aussi violente qu'elle a été accordée. » Et en fait, pour inspirer la confiance chez les gens, il faut juste rester soi-même. Il y a une anecdote là-dessus, si j'ai un peu de temps. C'est au début, quand on s'est lancé avec Alexandre, on a essayé de rencontrer des fonds et puis des VC, des business angels. Et il y a quelqu'un qui nous a dit « En fait, vous réussirez jamais parce que vous êtes trop gentil pour être entrepreneur. » Alors, je sais pas si cette personne, si l'histoire va lui donner tort ou raison, mais c'est vrai que cette gentillesse, peut-être cette bienveillance, bah, on n'a jamais essayé de la changer. Parce que même si, bien sûr, faut rester réaliste et savoir se battre, hein, parce que c'est aussi un champ de bataille, ça a toujours été important pour nous et on se réinvente pas.
Et la troisième, quel est ton style de leadership?
Bon, on a parlé d'intelligence collective. Je pense que si on accole le fait de rester soi-même, pas se mentir, d'essayer de vraiment voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, et d'impliquer toute l'équipe avec des systèmes de prise de décision et d'intelligence collective qui soient les plus efficaces et collaboratifs possibles, on a un bon résumé. Je pense que je suis pas un manager. Au sens, c'est pas ce qui m'attire le plus, c'est pas là où je suis le meilleur. Heureusement, là-dessus, j'ai Alexandre qui est parfaitement complémentaire. Mais en revanche, oui, je sais pas si on peut appeler ça du leadership, mais réussir à insuffler un cap, une vision et à mettre des personnes derrière avec ces ingrédients-là, c'est quelque chose que j'aime faire en tout cas.
Eh bien, Maxime, merci infiniment de t'être livré en toute transparence
merci
et pour tes mots inspirants, ton énergie qui est communicative. Et puis, en synthèse, je retiens trois points. Rester soi-même, assumer qui on est, car c'est la condition pour générer de la confiance.
Et de la croissance
aussi. L'intelligence collective comme modèle de collaboration. Et puis, recruter des gens autonomes, meilleurs que soi, pour avoir du succès.
Merci Eric.
Merci Maxime.
Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, Leaders Challenging Leaders.